Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais j'ai déjà raconté les efforts hein, qu'on faisait chez nous pour réduire la quantité de déchets.
Oui.
Notamment congeler les vidanges
oui,
pour aller les porter.
Surtout ta blonde. Hein?
Notamment. Non, moi je sors le...
Tu suis.
J'ai acheté un... Ça va nous donner les yeux, mais j'ai acheté un gros plat en plastique. Mais pour mettre les déchets de table dedans, là on les congèle. Après ça, on va les porter au coin de la rue dans le bac de compost. Mais au-delà de ça... papier, cellophane, des petits sacs Ziploc chez nous, ça n'existe plus
hein?
Depuis à peu près 2 ans.
Le petit truc à cire d'abeille là, que tu prends là, finalement pour le remplacer le cellophane.
C'est de la... Ah ben non, ça a l'air d'un petit bonnet de douche.
Ah ok, oui, il y a les deux.
Ouais, ça a l'air d'un petit bonnet de douche qu'on met sur les plats puis que tu peux mettre dans la laveuse. Bref, c'est ça, on fait nos efforts, mais la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que moi je fais ça pour sauver la planète réellement ou est-ce que je fais ça par devoir conjugal?
C'est ça, c'est pour ça que je te disais, c'est surtout ta blonde.
On le sait pas tout le temps. Mon prochain invité est membre du mouvement pour une ville zéro déchet, Frédéric Narbonne, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Frédéric, d'abord, ça part de où ce mouvement-là? C'est quoi exactement cette organisation-là?
Ben écoutez, le mouvement pour une ville zéro déchet, c'est vraiment un groupe de citoyens engagés qui avaient pour principale préoccupation de peut-être diminuer l'empreinte de notre mode de vie qui est assez opulent au Québec.
Ouais. Fait que zéro déchet, tu sais, dans le fond, la mode du zéro déchet, c'est plus une mode du moins de déchets possible.
Ben le moins
zéro absolu, c'est comme inatteignable. Là,
ben c'est inatteignable, mais ça a déjà été possible. Hein. Faut juste revenir un peu à fin du 19e siècle, début 20e siècle, là, une ville ne générait pas de déchets. Pourquoi? Parce qu'on utilisait beaucoup de produits à base d'animaux ou, exemple, on s'éclairait avec l'huile de baleine, tu sais.
Ouais.
Fait que le restant de la baleine, là, on la récupérait, vous comprenez?
Ouais.
Fait que tout se récupérait. La notion de déchet, là, dans le monde occidental, c'est quelque chose de quand même relativement récent, là. Ça date du début du 20e siècle, OK?
Ouais. Mais tu sais, d'un autre côté, il y avait des affaires au 18e, 19e siècle aussi, des maladies, des patentes qui étaient pas nécessairement souhaitables, tu sais, au niveau... Non, mais le plastique, tu sais, on parle souvent du plastique, ça pollue à côté, mais pour le monde médical, c'est une révolution, tu sais, de pouvoir utiliser du plastique, fait que... La solution, c'est pas non plus de revenir à un mode de vie de 200 ans.
T'as entièrement raison. Effectivement, le plastique, mettons, dans le domaine médical ou même dans le domaine de l'automobile, tu sais. Je veux dire, si on n'avait pas des fibres de verre puis des matériaux composites pour faire des réservoirs d'essence, notre réservoir d'essence, au lieu de peser 40 livres, il en pèserait 75, 80, 90 livres et l'essence qu'on paierait au bout de la ligne serait aussi proportionnelle. Donc, c'est pas nécessairement tout blanc, tout noir. Il y a beaucoup de nuances de couleurs. Puis je pense qu'il faut... En fait, un développement durable, OK, c'est quelque chose qui nous invite à revoir nos besoins, OK? Fait que est-ce que ce plastique-là dans le domaine médical est utile? Oui. Mais est-ce que un plastique généré, je sais pas, pour me raser le matin, à tous les matins, j'ai besoin d'un nouveau rasoir, est-ce que ça, c'est utile? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de satisfaire un besoin, OK? Fait que c'est un peu ça qu'il faut se poser comme question, tu sais, c'est revoir l'ensemble de nos besoins puis de se dire, est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce que je mène une vie d'être humain en 2019 idéale?
Vous n'êtes pas extrémiste, mais vous êtes conscient.
Ben, je trouve ça intéressant parce que souvent, moi, il y a une affaire que j'entends qui revient, c'est, par exemple, les épiceries zéro déchet. Moi, je suis allé peut-être une fois ou deux dans une épicerie zéro déchet. Je trouve ça belle fun, mais... Confidence pour confidence, c'était plus par devoir conjugal. Puis là, moi, j'ai pas d'enfant, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est faisable d'aller à l'épicerie zéro déchet. Mais, tu sais, je pense à des gens qui travaillent 50, 60 heures par semaine, aller chercher les enfants, revenir. Je me dis, tu sais, ils font l'épicerie comme une fois à une place, dans la grande surface. C'est sûr que là, ben, je me vois mal dire à ces gens-là, non, tu vas aller trouver la petite épicerie de quartier de rien du tout, remplir tes pots maçons.
Surtout à Québec, il n'y en a pas beaucoup encore.
Ben, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais pas tant que ça encore. Fait que, tu sais, ça s'adresse pas nécessairement à tous les modes de vie, à part le fait de réfléchir, comme tu dis, ah, ben, ça, j'en ai-tu besoin ou pas, tu sais.
Ben, c'est sûr que de changer des habitudes de vie, c'est pas facile au départ, tu sais. C'est drôle parce que tantôt, dans mon fil Facebook, j'avais mes souvenirs, tu sais, puis je publiais v'là 2 ans. En 1956, on a retiré l'alcool des écoles en France. Tu sais, aujourd'hui, on regarde ça, puis on dit, hey, bo boy, tu sais, on a fait du chemin.
Ouais.
Mais c'était quand même.
Moi, je le réinstaurerais, d'ailleurs.
Mais tu sais, ceci dit, c'est une question d'habitude, tu sais. Fait quand on parle de changer les habitudes, c'est sûr que c'est un processus qui est long. Effectivement, l'infrastructure pour distribuer, c'était, mettons, les épiceries d'alimentation est pas disponible encore. Donc, c'est pas un mode de vie qui est applicable partout, tu sais. Mais il y a quand même des exemples de familles, de femmes monoparentales, de mères monoparentales qui font leur épicerie dans des épiceries zéro déchet à Montréal. À Québec, effectivement, c'est encore un processus qui est en train de s'installer, là. Mais c'est quelque chose qui va s'installer graduellement, puis qui est, comment je pourrais dire ça, qui est à l'avantage de la communauté au complet, là. OK? Parce qu'il faut quand même pas oublier que, souvent, on parle de changement climatique, puis on associe ça aux voitures à Québec, au pétrole, puis toute l'équipe. Mais il y a 50% de ce pétrole-là, OK, puis de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent juste de la transformation des produits. Fait que j'ai besoin d'une capsule de café, ben il a fallu que j'aille extraire, mettons, de l'aluminium à quelque part, que je la prenne de l'Australie, que je l'amène au Québec, que je la transforme. Ouais. Le processus lui-même génère des GES. Fait que tout ce processus-là, nous autres, comme consommateurs, on n'en a pas conscience, tu sais. Mais il existe, il est là.
Okay? C'est vrai, parce qu'on a l'impression des fois que à très petite échelle, tu te dis, ben là, quand même bien que dans la rue chez nous, il y aurait 3-4 maisons que les gens font attention de pas trop de déchets, mais ça change-tu tant que ça grand-chose? La réponse, c'est oui, parce qu'à toutes les fois que tu sauves un petit quelque chose, c'est des émissions de gaz à effet de serre. C'est de l'attente que tu réussis.
Exactement. Tu sais, les écologistes au Québec vont parler, comme je te dis encore, des transports. OK? Au Québec, là, les émissions de gaz à effet de serre des voitures individuelles, là, c'est 22%. La plus grosse part des émissions, là, ça vient de l'industrie. La transformation de nos produits. OK? Puis l'autre partie, c'est pour transporter ces produits-là. Parce que 100% des produits qu'on fait, faut qu'ils soient transportés par camion. Fait que, tu sais, juste pour notre consommation, là, c'est 24% plus 18% pour le transport de marchandises. Fait qu'on a quand même.
Et d'un autre côté, il y a des affaires, par exemple, je pense aux fruits et légumes, que si on n'achetait pas des produits qui viennent d'outre-mer ou d'Amérique du Sud, ben on mangerait des carottes puis des navets à longueur d'hiver.
Puis avant, il manquait beaucoup de minéraux dans l'alimentation à cause de ça.
Ce qui était le cas jusqu'à une cinquantaine d'années, c'est quand même assez récent encore, 60 ans peut-être. Ça fait qu'il y a quand même des bénéfices à ça aussi, tu sais. Je pense que c'est possible quand tu vas à l'épicerie d'essayer d'identifier, OK, c'est-tu un produit du Québec? Oui, non. Mais à un moment donné, de dire, ben là, regarde, moi, l'hiver, j'ai goût de manger des tomates quand même.
Puis t'as entièrement raison. Tu sais, je veux dire, on a quand même le privilège de vivre à une époque où on a accès à tout ça. OK? D'où le point que je vous posais au départ, c'est de revoir son besoin. T'sais, j'ai envie de manger un ananas. Est-ce que je peux faire pousser mon ananas ici au Québec? La réponse, c'est non. OK? Elle vient d'ailleurs. Fait que, effectivement, on peut peut-être se permettre ce genre de truc-là, mais il y a d'autres besoins qu'on nous dit, la capsule de café, on nous dit, tu vas avoir un meilleur café, plus frais, non. Je veux dire, on a rien qu'à remonter encore là, juste dans les années 50, là, boire un café, là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, là, tu sais. Hey, boboy, c'était pas le fun de boire du café à cette époque-là. Moi, personnellement, depuis que j'ai à peu près 20 ans, je me suis acheté une petite cafetière espresso italienne, là,
ouais.
OK? Puis je l'ai encore. J'ai 40 ans aujourd'hui. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais du café à partir de la même cafetière. Pour ce qui est du dosage du café, pour avoir le goût le plus exceptionnel, l'expérience de café la plus exceptionnelle de ma vie. Ouais. Tu sais, je vais chez Nectar, je vais chez mon producteur de café, puis je lui demande, comment tu fais? Ça prend pas la tête à Papineau pour avoir un mode d'emploi puis le suivre.
Après 20 ans, je peux pas croire que ta technique, tu l'as pas développée pour avoir un bon café.
Je commence à avoir une popée. Je fais même des beaux dessins dans ma tasse de café.
Ah, c'est vrai, ça c'est la prochaine étape. Mais moi, les petites dosettes de café, ça, j'ai de la misère. Mais pour l'emballage, par exemple, je constatais à un moment donné, en essayant d'acheter des fruits et des légumes le moins emballés possible, que je les perdais deux fois plus vite. Tu sais, une laitue iceberg, une laitue romaine, mettons, là. T'as mets dans le frigo comme ça, deux jours effripé, c'est sûr. Là.
C'est sûr et
certain. Dans un emballage plastique, tu peux la garder une semaine, 10 jours, même presque. Ça fait il y a quand même des avantages aussi. C'est quoi, mettons, les trucs que tu donnerais pour essayer de trouver le juste milieu entre full plastique ou gaspillage alimentaire?
T'es bon pour faire l'avocat du diable, Paul.
Ben non, mais c'est ma réalité pareil.
Ben, j'ai la même réalité que toi. Okay, ouais. Regarde, je te donne un exemple. Mettons mes échalotes. J'avais le même problème que toi, mais j'achetais mes échalotes. Le lendemain, j'avais même pas eu le temps de les regarder. Ouais, ils étaient déjà tous fanés.
Ben c'est ça.
Ben exact. Là, j'ai décidé de devenir un agriculteur là, urbain.
Oh yes!
J'ai récupéré une bouteille de plastique que j'ai coupée en deux, puis là, je mets mes échalotes dedans. Mes pommes de salade, je fais la même affaire, je fais juste mettre le pied dans l'eau, puis au lieu de durer deux jours, je les conserve une semaine et demie. Mais ouais, c'est quand même pas si pire que ça. Le céleri, la même chose. Fait que, tu sais, il y a des moyens ultra simples à notre disposition d'utiliser des objets qu'on a à la maison, puis de finalement mettre nos légumes dedans et éviter d'utiliser du plastique. Parce que, tu sais, il faut quand même pas oublier une chose. T'en vas à l'épicerie, tu t'achètes des pommes, tes pommes, tu vas les consommer dans la semaine, OK? Ouais. Le petit sac dans lequel tu l'as mis, là, dans 3000 ans, il va être encore là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, fait que tu vas avoir utilisé un sac de plastique pour, quoi, 25 minutes?
Ah, puis avant, en plus, à plein de places, des petits... ma blonde a acheté ça, des genres de petits sacs en filet, là, si tu veux, là, qui remplacent le petit mini-sac dans lequel tu mets tes choux de Bruxelles, là, parce que c'est bien plate.
Difficile à décoller.
Un après un à la caisse, les choux de Bruxelles. Fait que ça prend un sac. Puis ça, je m'en viens pas pire. Là. Je les oublie de moins en moins. Je me trouve pas si pire que ça, quand même. Pour les... Mais il y a quand même des trucs comme ça, tu sais, des sacs réutilisables. Des
tantôt, patins, tu parlais de ton compostage. Je fais la même affaire chez nous. Moi, là, les sacs à la bombe, là, les sacs bleus de recyclage, je me suis acheté une poubelle. Puis là, quand mon, à fin de mois de novembre, début décembre, là, quand ça commence à être dur de ramener mon compost en bas, ben, je prends un sac, puis je mets tous mes résidus de table là-dedans. Puis avec un sac, j'ai fait tout l'hiver au complet. J'ai quand même un fils, j'ai ma blonde. On est une famille là, de trois. Puis je veux dire, j'ai eu assez de mon sac. Puis cette semaine, j'ai été descendre mon compost. Je l'ai mis dans la boîte, je l'ai transvidé en buvant une bière, en profitant du soleil.
Il y a une auditrice qui nous écrit, qui dit « Enfin, un écologiste non culpabilisant, je l'aime bien. »
Ah, je déteste cette technique-là. Sérieusement, là, moi, le monde qui font de l'idéologie puis qui utilise la moralité pour te dire « Toi, t'es pas bon, puis nanana, c'est n'importe quoi. » Puis on le voit, là, ça fait 50 ans qu'il y a du monde qui essaie de nous dire qu'il y a des problèmes avec l'environnement puis que le monde bouge pas.
Fait qu'il y a quelque chose.
Faut se poser des questions, exactement.
C'est ça.
Je pense qu'il y a des nuances. Puis comme je vous disais, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a toute une gamme de couleurs à travers ça. Puis il faut faire fi de, faut tenir compte de la réalité de tout le monde. T'sais. Moi, j'ai un enfant, puis effectivement, je suis pas parfait. J'ai un char, je suis venu en char un matin.
Ah oui.
Mais tu sais, regarde, j'essaie d'y aller avec ma tête puis de réfléchir justement à la notion de mon besoin. Tu sais, un matin, il fallait que je me dépêche parce que justement, il fallait que je fasse déjeuner mon fils. Puis tout, tu m'as demandé d'être là à 7h15. Fait que j'ai utilisé mon
c'est
char.
Ça, exact.
Mais voilà, tu sais, un moment donné, on peut pas être parfait. On ne dépend pas uniquement de choix individuels. Puis c'est le côté des écologistes souvent qui est peut-être plus agressant pour les citoyens, plus normal si on veut dire. C'est cette tendance-là à vouloir dire c'est toutes des choix individuels. Non, excusez-moi, on vit dans un système qui ressemble à un grand fleuve chinois en crue au printemps. Là. Ok. Moi, je sais nager, puis je suis capable d'atteindre une rive. Mais c'est pas tout le monde qui sait nager comme moi.
Ouais.
Fait que les gens ont besoin aussi d'assistance du système là-dedans. OK? Fait que si un flotteur.
Ouais, c'est ça, un petit flotteur.
Ou tu sais un gouvernement peu importe qui nous dit ben voici ça c'est certaines actions qui vont vous aider à atteindre certains objectifs, mais c'est pas uniquement des choix individuels qui nous amènent à un meilleur résultat écologique au bout de la ligne. Là.
Merci Frédéric d'être venu nous rendre visite ce matin,
ça me fait
intéressant. Frédéric Narbonne du mouvement pour une ville zéro